je voudrais savoir si le dossier patient, c'est quelque chose qui un jour verra le jour, justement, puisque je sais pas, on était à Strasbourg et ça avait l'air toujours difficile. Et ça paraît incroyable qu'on n'ait pas dans un parcours de vie ces données qui sont importantes et qui sont toujours pas gérées.
Je vous remercie pour cette question. Je vous remercie pour cette question. Parce que ce dossier médical qu'on a appelé personnalisé au début, qu'on avait partagé aujourd'hui, c'est le monstre de Loch Ness. On nous dit qu'au mois de septembre, on va pouvoir le diffuser. D'après ce que j'entends des expérimentations, il y a très peu de dossiers, en fait, qui soient déjà faits dans les milieux expérimentaux. Donc, c'est un peu difficile parce que nous n'avons pas pris le pli du numérique. Deuxièmement, nous sommes accrochés à la vie privée, le privacy, Privacy Act, les autres. Mais alors que tous ceux qui ont dit un numéro identitaire pour tout, on fait le Danemark, où on fait tout numérique comme l'Estonie, etc., et tout le monde prend du devant, et les États-Unis ont fait une loi, et maintenant ils sont à 80% des médecins généralistes qui font des dossiers numérisés, et 100% des hôpitaux. On en est loin, et en plus, ce dossier n'est pas structuré, et ce dossier n'est pas numérisé. Donc on est dans un monde où on est très très loin derrière même ce qu'on devrait faire. C'est là où ça nous pose problème, parce qu'on dit, mais on a des données de l'assurance maladie, le SNIRA, c'est-à-dire 60 millions de personnes. Qu'est-ce que c'est que ces données? Ces données, ce sont les ordonnances faites par les médecins. Les ordonnances faites par les médecins, comment vous allez tirer l'histoire de la maladie? C'est une ordonnance. Même le diagnostic, on n'a pas. Et donc, qu'est-ce qu'on peut en tirer? Pas grand-chose. Simplement savoir s'il est vivant ou mort. Donc on met la table de décès en face, on met les actes de décès en face, c'est tout. Et encore, on a du mal. Ça fait 3 ans que l'école polytechnique, avec une équipe de 7 personnes, travaille sur cette base de données du SNIRAM pour la mélanger avec celle de l'hôpital, le PMSI. Parce que l'ordonnance, c'est la ville. Donc le mélanger avec l'hôpital. Et le mélanger avec d'autres données qui sont les décès et autres. Ils sont obligés de prendre pour chacun, avec une anonymisation, etc., de difficulté, chaque personne pour tirer la donnée de l'un, puis tirer la donnée de l'autre, puis refaire un tableau de travail, et qu'il n'est pas complet, parce qu'on n'a pas de diagnostic, parce qu'on n'a pas l'histoire de la maladie, et d'en sortir quoi. Et donc c'est un vrai grand sujet, c'est que nous croyons qu'avec nos données, on va faire des choses, alors qu'il faudrait repartir à zéro, et faire des données pour la recherche en santé publique, pour la recherche, tout ce que nous parlons ici. Donc on est... Excusez-moi, on est très fiers de cette base de données, on est très fiers de notre nouvelle vision des données en santé en France, mais on a quelque chose de très pauvre, voilà, en fin de compte. Bien que ce soit un grand nombre, il y a très peu d'informations qui nous soient vraiment utiles. Donc le dossier, on espérait que le dossier puisse nous servir, mais le dossier n'est pas sorti, il n'est pas structuré, il n'est pas numérisé.
Il n'est pas fait pour être exploitable.
Il est fait pour faire un échange entre médecins, mais oui. Pas fait pour faire une exploitation de recherche dessus. Oui.
Voilà. D'autres questions, les amis?
Vincent Chéry, directeur adjoint de la DDTM, direction départementale et territoriale de la mer du Var, pas du tout spécialiste de ces questions.
Mais vous avez compris quand même? Vous avez compris ou c'est...
Non, j'ai suivi. J'ai suivi. Alors, simplement un commentaire. Enfin, voilà, la DDT, on s'occupe d'un autre grand corps malade qui est le territoire. Et tout ce que j'ai entendu ce matin par les docteurs, donc Pierre-Georges, sur la problématique du décloisonnement, ce que j'ai entendu cet après-midi, c'est les mêmes problématiques de cloisonnement de la chapelle, enfin, mutuelle, sécu, ville, hôpital, enfin, c'est absolument assez effroyable, enfin, sans tomber dans quelque chose de pessimiste. Mais par contre, alors, par rapport à voilà, au grand corps malade de l'aménagement du territoire qui lui était directement traité par notamment la décentralisation, là je rebondis sur les deux interventions en fait, qui sont enchaînées cet après-midi. Pour la santé, on est vraiment sur finalement un système qui est complètement en dehors du champ des collectivités territoriales. Alors j'ai le sentiment, finalement aujourd'hui on n'a pas du tout parlé des communes, des départements, des régions. Et alors Voilà, c'est très
merci.
Étonnant.
Merci pour cette question. C'est vrai que vous voyez que Roselyne Bachelot a essayé par les agences régionales de santé de reporter tout au niveau régional. Donc c'était bien la volonté de redonner à la région. Pareil pour l'organisation du parcours de soins, on espérait que ça se passe au niveau régional. C'est pas la même chose dans les Alpes par rapport à une plaine, par rapport à une ville, dans le parcours. Donc on pensait qu'on allait, au niveau de la région, restructurer complètement. Or, je vous ai dit qu'on a essayé de mettre les trois caisses au sein d'une même agence, et là, au sein de cette agence, il est interdit, ça travaille en silo, il est interdit de servir de ce qui vient d'une caisse pour l'autre et pour le troisième domaine. Donc il y a là un sujet profond, c'est qu'on est jacobiniste, même quand on veut déléguer au niveau de la région, ça reste encore jacobiniste, c'est-à-dire que ça doit remonter à la caisse centrale, et tout remonte à la caisse, à la DGOS d'un côté, à la caisse centrale de l'assurance maladie, et à la CNSA pour l'autonomie. Et c'est ça la difficulté, c'est que même quand on a essayé de décentraliser, et héros a essayé de le faire, héros a essayé de se battre contre les sauveteurs. Et il y avait une vraie bagarre au début du gouvernement Hollande entre la vision héros qui était régionale, et tout redonner au niveau des régions et lui laisser libre de faire ce qu'elles veulent, et inversement, la vision jacobiniste de Marisol Touraine. Je vais vous dire même pire, je vais vous faire une confidence. Au moment de la grande difficulté entre eux, c'est Héro qui a présenté le programme santé au mois de février à Grenoble, et pas elle. Elle est vexée. Elle a toujours, donc vous savez, toujours, elle voulait que ce soit vraiment de haut en bas. À ce moment-là, on lui a mis un rapport Cordier. Et on a mis à ce moment-là Pifto, qui est l'alter ego de Cordier, comme secrétaire général de le ministère de la Santé. Elle a pris à travers la gorge, pour forcer à être régionaliste et à revoir cette vision, comme vous dites, territoriale. Elle a pris le rapport Cordier et l'a mis en rangement vertical, directement dans la poubelle. À ce moment-là, Héro était furieux au mois de juillet. Au mois de septembre, ça reste entre nous, et il a fait venir Claude Hédon. Claude Hédon, qui était le directeur de l'Agence régionale de l'Île-de-France. Il a fait venir dans son cabinet de Premier ministre, avec donc un rang de ministre bis, puisque c'est quand même quelqu'un d'ancien ministre, le président de. À ce moment-là, Marisol a crisé.
Crisé grave.
Et alors, à ce moment-là, elle a vite compris que, ma foi, elle allait être. Et donc, elle a dit : je vais lire le rapport Cordier. Ce qui a permis qu'elle l'a lu, et une deuxième fois, elle a fait un rangement vertical, et donc Claude Hédon est rentré à l'agence. Non, mais pour vous dire que donc il y a une vraie dualité entre une vision régionale et une vision, au contraire, nationale et jacobine. Et ça, je ne sais pas au niveau de la nièce Buzyn, ce qu'elle a, parce qu'elle n'a pas encore dit exactement comment elle voyait les choses, mais ça a été très violent entre le Premier ministre et le ministre de la Santé. Au moment de. Oui, allez-y, je pose une question.
Un petit micro, s'il te plaît, sinon les camarades du fond ne t'entendent pas. Donc, ce n'est pas les meilleurs élèves qui se mettent au fond, on ne parle pas fort.
Oui, j'aurais une question. Tout à l'heure, vous avez dit en parlant du nouveau médicament sur l'hépatite C, qu'il y avait des services, notamment sur les greffes de moine qui.
Non, c'est pas pour l'hépatite, c'est les greffes de foie.
Les greffes de foie. Et vous disiez, on ne s'est pas fermé une unité.
Non.
Ça veut dire quoi, on ne s'est pas fermé une unité? Pourquoi?
Alors, c'est pour ça que l'obsolescence, on ne sait pas gérer l'obsolescence.
Parce que c'est des baronies.
Non, je dis des méchants. Mais il y a des. D'abord, nous, les médecins, on voit arriver le médicament, de loin. Parce qu'on l'a testé, on le connaît. Il se passe pas. On ne va pas dire du jour au lendemain que ça a guéri comme ça. Hein. Ça fait 4, 5 ans, 6 ans qu'on l'a testé, qu'on sait qu'il marche, etc. Donc on est dans le coup. Mais on n'a pas le droit d'être expert quand on a été dans le coup. On n'a pas le droit, quand on a touché au médicament, d'être expert. On est dans une agence, on est à la sécurité sociale, on est exclu de toute possibilité d'être expert. Donc on prend des experts aveugles, qui n'ont jamais connu le médicament. Ah, ceux-là, ils sont bien, parce qu'ils n'ont pas de lien d'intérêt. Ils n'ont aucun lien d'intérêt, aucun profit d'intérêt. Ils n'ont jamais vu le médicament, mais ils ne savent rien. Donc de ce fait-là, les agences type l'assurance maladie, on veut arriver sur le médicament, et juste 2 mois avant, ils disent, mais qu'est-ce que c'est que ça qui nous arrive 14 milliards de jour au lendemain? On dit, ah oui, mais ça, on savait depuis longtemps. Mais ça a été donc brutal. Or, ces gens qui greffaient, c'est toutes ces équipes qui soignaient les malades et tout ça, ils vivent en équipe, on ne va pas disloquer une équipe ultra performante du jour au lendemain. Alors qu'est-ce qu'ils font? Ben, ils vont chercher d'autres cas pour lesquels on peut faire des grèves de foie. Donc on va chercher d'autres cas qui avaient beaucoup moins de chances par la grève de foie, mais qui quand même peuvent en aider certains. Et donc on va chercher des alcooliques qui ont des maladies du foie, on va chercher des gens qui ont gros et gras qui ont des maladies du foie, et on va leur faire des grèves de foie. Parce qu'il y a fait pour le système qui marche. Ça a été pareil pour la grève de moelle avec la leucémie. On a 50% des grèves de moelle étaient dues à cette maladie et pour lesquelles un comprimé suffisait.
Et le Gleevec et la LMC. Hein,
voilà. Le Gleevec et l'amyloïde chronique. Et donc, avec un comprimé par jour, non, c'est Novartis.
Mais, Novartis,
c'est sûr. Mais avec un comprimé par jour, ça suffisait. Mais qu'est-ce qu'on fait les greffeurs? Ils ont trouvé d'autres cas qui étaient bon, des gens plus âgés qu'on pouvait quand même greffer quand même. Donc, de toute façon, on a rempli les lits. On remplit les lits. Je vous donne un autre exemple. Aujourd'hui, les centres de lutte contre le cancer, ils ont un nombre de lits important. Il y a 20 centres de lutte contre le cancer en France. Bien qu'avec Villejuif et Curie, le nombre de lits additionnés suffirait pour toute la France. Il faut que tout le monde aille à Villejuif et Curie, mais au nombre de lits. Dans 18 autres, ça devrait être vide. Eh bien, on a gardé tous les lits. Pourquoi est-ce qu'on a gardé? D'abord parce que le cancer, actuellement, c'est ambulatoire. On fait le diagnostic en ambulatoire, même la chirurgie. On fait le traitement ambulatoire, c'est oral. Et on fait la radiothérapie ambulatoire. On n'a pas besoin de lits. Grossièrement, on n'a pas besoin. On s'est porté depuis... c'est même du temps de Sarkozy, en train de dire qu'il faudrait trouver autre chose que la tarification au nombre de lits occupés la nuit, la tarification à l'activité. Parce que l'activité, ça veut dire un lit occupé. C'est idiot, c'est comme ça. Et occupé par quelqu'un qui coûte tant. Mais quand on est ambulatoire, ça rapporte rien. Donc, ce qui est passé, c'est que ces directeurs de centre de l'école de cancer, qu'est-ce qu'ils ont fait? Eh bien, ils ont rempli leur lit de soins palliatifs, d'autant que par la tarification à l'activité, on payait mieux et de mieux en mieux le palliatif. Ils ont rempli de palliatifs. Alors que le palliatif ne devrait pas être dans un centre de lutte contre le cancer. Le palliatif devrait être au contraire loin des médecins, loin de la technique, être plutôt dans l'apaisement, dans cette activité un peu aiguë. Et donc, aujourd'hui, si vous allez voir le centre de lutte contre le cancer, beaucoup sont occupés par des soins palliatifs, beaucoup de lits. Et ceci, c'est une perte dans tous les sens, à la fois pour le patient, se retrouver là, quand vous avez une maladie atteinte de cancer, vous vous retrouvez dans un état où il n'y a que des soins palliatifs, ça vous fait un choc, hein, parce que les gens sont en train de mourir, alors que vous êtes en nouvellement diagnostiqué, être là-dedans. Et deuxièmement, ce n'est pas du tout le rôle d'un centre de lutte contre le cancer qui est en innovation permanente de se trouver pour les fins de vie. Donc, on est dans un système qui doit s'arrêter. Et ça fait. Et je suis donc un grand patron de Bordeaux, qui malheureusement est mort, José Reffers, qui avait fait des tas de propos auprès des ministres, qui étaient assistés, c'est ensemble, mais on n'écoute pas. On reste avec cette tarification d'activité. Il fallait trouver une autre tarification pour les centres de lutte contre le cancer. Il fallait trouver autre chose, et pas payer à ces lits occupés dans la nuit. Voilà. Donc vous voyez on a du travail. Je pense qu'on a du travail.
Une
Une question ou une réflexion ou un témoignage.
Il y en a une au fond, on a au fond.
Là, il y a M. le maire au fond et puis Philippe. Non, mais les deux, on a des risques d'avoir une mission bête, justement, sur le financement.
Voilà, oui.
Le financement à l'épisode, est-ce que vous pensez que ça peut aboutir à...
Je suis très heureux de ce qui se passe aujourd'hui.
Voilà, d'accord.
Alors, je dis, par rapport à Marisol Touraine, on sent qu'on a pris conscience qu'il fallait parler résultats, et non plus process, qu'il fallait parler. En fait, compte autre chose que le volume. Et donc, on prend le sens médical et non pas managérial. Donc, je suis très heureux de ce qui se passe aujourd'hui. Je ne sais pas jusqu'où ça ira. Mais alors, pour vous dire, dans les pays étrangers, parce que ce matin, vous avez vu que Eve a dit c'est moi qui vais m'occuper du parcours, l'hôpital. Vous avez entendu ce matin. Alors, je vous donne des exemples. C'est vrai qu'aux États-Unis, c'est l'hôpital qui a pris le dessus, avec les ACO, Accountable Care Organization, où on mélange la ville et l'hôpital, mais c'est l'hôpital qui gère. Et l'incitatif, c'est de dire, voilà ce que ça coûte aujourd'hui, ce parcours. Si vous faites moins cher, l'argent est pour vous. Alors, ça incite. Hein, donc, à ce moment-là, et vous le partagez. Donc, à ce moment-là, les gens sont incités. Donc, il y a une incitation, alors que nous, quand on veut en faire, on n'aura pas d'incitation financière comme ça. Personnel. La Grande-Bretagne, quand Cameron est arrivé, souvent, peut-être je parle un peu trop, mais quand Cameron est arrivé, il a dit le parcours de soins, qui peut le faire? C'est le premier qui voit le malade. C'est le GP, le généraliste. Le généraliste, il voit le patient, et c'est lui qui va dire, tu vas aller à l'hôpital, tu vas aller ici, tu vas faire ci, tu vas faire ci, tu reviendras, faire ça. Il fait son parcours. Donc il a donné tout l'argent de la sécurité sociale, tout l'argent de l'assurance maladie, au généraliste. Tout l'argent. Et ils se sont retrouvés avec une somme colossale, gérant 1 000 à 1500 personnes, et c'est le généraliste qui payait l'hôpital avec un chèque, qui payait le radiologiste avec un chèque, qui payait le laboratoire avec un chèque, qui payait tout le monde avec un chèque. C'est le généraliste qui payait. Alors, au bout d'un an, on s'est aperçu que certains dépensaient trop, aller plus loin que ce qu'on leur donnait. D'autres côtés avaient été parcimonieux en pensant qu'il fallait terminer l'année et ils ne voudraient dépenser pas assez. Donc c'était pas terrible. Donc, on leur a mis des commissions à côté, des clinical commission group, des commissions qui les aident à gérer. Mais c'est le généraliste qui fait pour le parcours de soins. Nous, on pensait en France, ce serait l'ARS qui pourrait le faire. C'est pour ça qu'on a construit l'ARS. On pensait que les agences régionales de santé pouvaient construire ces parcours un peu d'une région à l'autre, différente d'une région à l'autre. Voilà la question. Bon, il y a une question encore au fond.
Quand vous évoquez la puissance de la demande d'éventuellement réforme du système, est-ce que vous imaginez une forte conséquence sur les secteurs 1, 2, 3, le fait d'aujourd'hui payer globalement la consultation de prix, même s'il y a des différences relativement marquées dans certains endroits, est-ce que cet élément-là ne va pas faire un peu exploser le système?
Moi, je pense qu'on va être de plus en plus sur l'épisode. Et on va trouver quelque chose d'autre pour le chronique. Mais pour la maladie chronique, ça sera une prise en charge globale de la personne. On va payer de plus en plus sur l'épisode, entre si jamais il faut aller vers l'hôpital ou ailleurs. Je pense qu'on aura. Alors, la distinction entre rembourser comme ci, rembourser comme ça, est-ce qu'il y a des dépassements d'honoraires et autres, c'est là où la complémentaire pourra encore jouer un peu un rôle. Il faudra lui trouver des rôles. Elle sera plus dans la prévention, plus dans le système de santé, plus dans, et peut-être aussi continuer à payer un peu plus de dépassements d'honoraires. Mais tout ça, c'est un secret. Et moi, je ne veux pas répondre, mais je vous dis, c'est dans la tendance, c'est à nous de faire attention. Je voulais juste vous terminer un tout petit détail qui va vous faire comprendre pourquoi on a évolué. Quand Pierre Larocque a fait l'assurance maladie en 1945, ça servait à payer le chef de famille qui, malade, de maladie chronique, ne pouvait plus subvenir à sa famille. Parce qu'il n'y avait pas de salaire à l'époque, il n'y avait qu'un. Il ne pouvait plus subvenir à sa famille et donc il fallait lui donner une mensualité qui permettait de donner à manger et loger sa famille. 95% de l'argent de l'assurance maladie était un argent de banque qui versait des mensualités. Et 5% seulement pour le soin, les hôpitaux, les docteurs et autres choses. 95% c'était vraiment des mensualités. Aujourd'hui, 95% de la dépense de l'assurance maladie, c'est pour le soin, payer les hôpitaux, les docteurs, etc. Et 5% pour les indemnités journalières. C'est donc ce qui est représenté. Donc vous voyez que la grande différence qu'il y a, c'est que c'était une banque. Elle est restée avec l'imaginaire d'être une banque. Et on lui donne maintenant de gérer du soin. C'est ça qu'on a créé dans votre autorité de santé, c'est pour l'aider à gérer du soin, parce qu'elle ne savait pas faire. Mais en fait, ce n'est pas l'assurance maladie de faire le DLP. Ce n'est pas un endroit médical. Ce n'est pas l'assurance maladie de faire le big data. Ce n'est pas l'assurance maladie de faire ça. L'assurance maladie, c'est une assurance pour rembourser. Ce n'est pas une assurance pour gérer la science médicale. Et donc, il y a un vrai sujet aujourd'hui, c'est de se dire où est la place de l'assurance maladie, sachant qu'elle n'est pas... Elle gère du soin et très très peu de banques, fait-on, d'indemnités journalières, alors qu'avant, elle ne faisait que ça.